Nous sommes le jeudi 9 janvier, il est 21h. Bienvenue dans le nerf de la game et j'aimerais bien meubler, ne pas avoir à meubler, mais il se trouve que j'ai un réalisateur qui est pas foutu de mettre la musique au bon moment. Donc je suis obligé de vous parler et de dire des choses incroyables. Je pourrais vous présenter de la musique. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut Romain.
Salut Xavier.
Comment ça va ?
Tu as bien géré le piège que je t'ai tendu.
Écoute, j'ai bien géré le piège tendu par ton incompétence crasse, mais ça me fait plaisir de te voir quand même.
Je ne répondrai même pas à ça et je me contenterai d'accueillir notre invité.
C'est plus un invité à ce niveau-là.
Oui, c'est un.
C'est numéro 3.
Non, moi je tiens juste la chandelle et je les regarde s'engueuler.
Salut Julien.
Bonjour Xavier, bonjour Romain.
Comment tu vas ?
Eh bien écoute, ça va comme une année riche en jeux vidéo.
Mais oui, écoute, c'est vrai que pour dans le cadre de l'émission, bonne année mon cher Julien.
Et mes meilleurs voeux Xavier.
Et oui, parce qu'on ne s'était pas encore vu dans l'émission cette
dans
année.
Dans l'émission cette année.
On ne vient pas de passer 2 heures à boire des coups
et à manger des tartes.
Et à manger des tartes quoi.
Évidemment. Dans un certain bar que
dans
je ne citerai pas.
Dans un certain bar où vous nous retrouverez la semaine prochaine.
On en reparlera plus tard.
Exactement. Le sommaire d'aujourd'hui, c'est simple, ça va être à quoi l'équipe du nerf de la game a joué en 2024. Donc, on va d'abord parler des jeux sortis en 2024 auxquels on a joué. Mmh. Spoiler, il n'y en a pas tant que ça.
Dans ton cas.
Dans le cas de Lupus et moi, de Julien et moi.
Non, ça va,
ça va.
T'en as deux, c'est bravo.
Moi, j'en ai trois.
En tout cas, il y en a deux dont j'aimerais parler.
Voilà, moi j'en ai très exactement zéro.
Parce que tu ne sers à rien.
Alors, je ne nie pas.
En même temps, son PC il crame dès qu'on enregistre un peu de son. Donc...
Forcément. Hein.
C'est vrai que j'invite des gens qui clairement font des actes de terrorisme sur mon PC.
Mais vu que tu joues pas, de toute façon, qu'est-ce que ça change ?
Non, mais par contre, ensuite, on parlera des jeux auxquels qu'on a. Les jeux de 2000, qui sont hors 2024, les jeux qui sont sortis
les
avant,
jeux,
auxquels on a vraiment joué.
En 2024.
Auxquels on a joué donc l'année dernière et sur lequel on a passé un sacré temps. Et on finira, si on a encore un peu de temps, sur un jeu chacun, l'attente de 2025.
Ok.
Messieurs, je vous propose de commencer, vu que monsieur dit qu'il en a plein des jeux de 2024, je propose à Romain de commencer.
Allez, je vais commencer en fait avec mon jeu de l'année. Déjà, le jeu auquel j'ai le plus joué sur Steam, ça m'a étonné sur le coup, parce que tu sais, ils font un récap à la fin de l'année, ils te disent, t'as joué comme un porc à 224 jeux dans mon cas, enfin c'était n'importe quoi, et sans compter les démos, hein. On est en dehors de ça. Et c'est donc évidemment Workers and Resources, Soviet Republic. Le jeu auquel j'ai joué le plus longtemps cette année et sans doute un des seuls sur lesquels j'ai pris le plus de plaisir. Donc mon jeu de l'année vient de Slovaquie et du studio 3 Divisions. Il est sorti en version 1.0 le 20 juin 2024. Il était déjà sorti depuis quelques années, 2019 je crois, je ne sais plus exactement.
Oui, c'est un de ces jeux qui ont eu un énorme temps de gestation, qui sont passés par plusieurs... Rework. Je crois que même ils ont. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils ont même changé de moteur à un moment donné.
C'est tout à fait possible.
Bon, en tout cas, si c'est pas un changement de moteur, c'est une upgrade du moteur, ce qui est une mise à jour conséquente dans un early access.
Et oui, le Duck Nukem Forever des jeux de gestion.
Ouais, mais il a fini par accoucher d'un truc d'une grande qualité. C'est un city builder, donc ambiance soviétique, hein, comme son nom l'indique. Donc on est dans du béton moche. Des graphismes austères et un productivisme forcené, hein, le communisme.
Oui, non, mais du coup, c'est pour ça que ça a pu tourner sur ta machine.
Non, parce que ma machine est de meilleure qualité que la tienne. En fait.
Alors,
Soviet République est plutôt gourmand
en
termes de ressources, malgré.
Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui tournent, en fait. Il y a beaucoup de trucs à gérer.
Tu veux dire un peu comme les Factorio, au bout d'un certain temps.
Voilà, ça consomme beaucoup sur le processeur. Et c'est le principe, tu vois, il y a tellement de nuances de gris.
Oui, qu'il faut gérer
au moins
quand même.
50.
Les...
Cassez-vous, monsieur.
Ah non, elle est...
Cassez-vous, je veux plus vous voir.
L'année commence très très mal. Déjà, la semaine dernière, c'était compliqué. Donc voilà, malgré un décor un peu austère, un peu sévère, parce qu'effectivement, c'est tout gris, heureusement, il y a des modes pour rendre ça un poil plus agréable aux yeux.
Pour rendre ça grisâtre au lieu de gris, ok.
Ouais, un peu, ouais. Mais malgré tout, bah, il est assez unique parce qu'il propose un mode simulation dans lequel on doit absolument tout gérer, tout planifier. Parce qu'il suffit pas, donc, dans un city builder, mais il suffit pas de désigner une route pour, enfin, désigner une zone où on fait une route ou de poser un bâtiment pour qu'il soit construit par magie. Il faut amener tous les matériaux de construction, puis les travailleurs, puis les machines, outils, puis voir le machin se construire, comme quand tu regardes un immeuble se construire en face de chez toi.
Un jeu de furieux, quoi.
Exactement. La gestion de l'eau et l'électricité sont également vachement plus complets que dans la plupart des jeux du genre, mais il reste accessible parce que tu peux baisser le niveau de profondeur en simplifiant ou en sortant de l'équation certaines des ressources à gérer. Donc voilà, il y a quand même moyen de se tailler une expérience de jeu à sa convenance et ça voilà, ça en fait pour moi depuis longtemps les city builders les plus réussis. J'aurais pas dire le city builder ultime, mais il place la barre vachement haut. Et clairement, il fera le bonheur des jeux de gestion, des amateurs de jeux de gestion bien velus.
Combien voilà. D'heures dessus?
Je dois être à 60 ou 70, je crois, un truc
ça
comme ça.
Va, c'est pas
ça va,
plus, c'est pas non plus énorme.
Non, mais en termes de
on
temps...
On parlera d'un jeu qui avec derrière le 1.0.
Oui, mais celui-ci, c'était déjà le cas de celui-ci. Hein. C'était déjà le cas de celui-ci.
Qui a une certaine personne dans ce studio a un peu plus que 60 heures.
Mm-hmm. Hein. C'est-à-dire, tu veux attaquer ça tout de suite?
Alors, pas sur celui-là, puisque ce n'est pas un jeu qui est sorti en 2024.
Si.
C'est un jeu dont
c'est un jeu dont la 1.0 est en 2024, okay, exactement comme Warcraft.
Donc c'est la règle, donc oui, effectivement. Allez, on se c'est lance parti. Les deux pieds dedans.
Vas-y, voilà. Droguer.
On en reparle à 9h30, donc.
Ok. Je vous laisserai 30 secondes chacun.
franchement,
pour faire l'outro.
J'ai été gentil. Hein. Allez, j'ai pas pris trop longtemps.
Alors, je vais laisse pas prendre trop longtemps non plus. Donc, moi, bien évidemment, mon jeu de l'année, c'est Satisfactory. Un jeu également à mi-chemin entre le jeu de bande passante, de gestion de bande passante, de productivité et un peu un city builder quand même dans son approche, puisque c'est un... Vous connaissez peut-être Factorio, qui est vraiment un pur jeu de bande passante où, en gros, vous avez une ressource que vous transformez ou que vous assemblez avec d'autres ressources pour faire d'autres ressources.
Quand on parle de bande passante, voilà, c'est un jeu de ligne de construction.
De production, ouais.
C'est pour faire la différence par rapport à ce dont Romain parlait, qui est un city builder où tu vas essayer de construire une ville et dedans où tu peux potentiellement gérer des ressources. Là, en fait, tes ressources vont faire partie des lignes de production.
C'est la production qui est au centre du gameplay, de la boucle de gameplay de ce jeu.
Voilà.
Et Satisfactory est particulièrement bon là-dedans, puisqu'il a une progression qui est, je vais oser dire, un peu douce, puisque toute la boucle de gameplay est bien amenée, elle est bien expliquée, elle se complexifie de plus en plus au fur et à mesure qu'on monte dans les phases de construction d'un ascenseur spatial. Et il est en early access depuis 2017, hein, Claire. Donc c'est un jeu qui a un bon temps de gestation, on va dire.
Depuis si longtemps que ça. Il me semblait qu'il était sorti d'abord sur l'Epic Games Store et du coup pas possible avant 2019.
La 01 est sortie en 2017 sur l'Epic Games Store.
Bah, l'Epic Games Store n'existe que depuis fin 2018, c'est pour ça en fait.
Ah bah dans ce cas-là, ça doit être 2018.
D'accord,
et j'ai confondu.
Ok, okay, pour moi, c'est pour ça. Je me demandais s'il n'avait pas déjà eu une vie avant en fait.
C'était une exclusivité de l'Epic Games Store. Il est sorti sur Steam à l'occasion de son update 3, donc sa 0.3, qui avait mis en place des liquides, des trucs comme ça. Et maintenant, il y a des gaz, il y a une tonne de trucs en plus.
Ça fait partie des jeux que l'Epic Games Store n'a pas tué, comme Hades par exemple, dont l'exclusivité Epic Games Store n'a pas été
Anno 1800,
oui, okay,
ou Anno 1800, il y en a certains quand même.
C'était pas une exclue.
Et du coup,
la première
sortie. Romain a indiqué un nombre
jouer sur les plaies
de 70 heures, c'est ça?
Ouais, je crois, dans ces eaux-là. Ouais. Moi, j'ai été très volatile.
Oui. Bah du coup, c'est un nombre d'heures global, mais j'ai dépassé le millier d'heures sur Satisfactory.
Ok.
Ok, alors voilà. Ceci est une intervention.
Voilà, c'est ça. Écoute, est-ce que tu veux en parler?
Non, il en a déjà trop parlé, il faut qu'il arrête.
3 minutes.
Attends.
Et du coup, donc, c'est ton jeu de l'année?
C'est mon jeu de l'année, clairement, et ça sera peut-être même mon jeu de l'année prochaine. Mais oui, ça fait quand même partie des jeux qui sont dans mon catalogue, enfin dans ma bibliothèque Steam, ouais, et dans mes top Steam
de l'année.
C'est constant,
ouais,
c'est constant, j'y joue régulièrement.
Petite question rapidement, tu penses en être à combien de la fin ?
Alors, c'est un truc particulier parce que Satisfactory, vous pouvez...
Moi, je voulais un chiffre, en fait, un 50%, oui. 60%, pardon, je sais quand même.
Je suis à la dernière phase de construction, et cette dernière phase, si vous la faites en ligne droite, ça peut vous prendre 30 ou 40 heures.
Donc, ce sera plutôt 300.
Donc, on est plutôt dans les 300 si vous décidez de faire des jolis bâtiments, voilà, et des petits trucs de transport. Voilà. Et voilà,
on en parlera avec Tisseur de Rêve. On en parlera avec Tisseur de Rêve qui aime bien faire du... Du joli.
Voilà.
Il m'avait invité dans son usine pour me montrer tellement il était content de ce qu'il faisait.
Punaise.
C'était très très cool.
Non, mais.
Parle correctement des gens, toi.
Pourquoi pourquoi faire
Toi, t'as joué à quoi, toi?
Non, en
2024, sorti... toi, t'as rien?
Non, j'ai rien.
Ah ouais, donc tu sers vraiment à rien.
Je suis d'accord. Un rétro gamer.
Bah, du coup, quel est ton jeu de 2024?
Oui, on peut éventuellement te laisser un peu la parole, quand même.
Alors, le jeu de 2024 auquel j'ai pas joué?
Non, alors vas-y, je prends la main pour l'instant. Voilà, t'as pas joué à l'Euro 2024? J'enchaîne.
Non, sinon je vous parlais de Thousand X Resist, mais
voilà, il n'est pas passé très très loin pour être sorti en 2024. Je crois qu'il est sorti toute fin 2023, non?
Décembre 2023.
Ouais, mais c'est pour ça qu'il est dans tous les tops de l'année, ouais, parce qu'il est sorti en décembre 2023. Mmh. Et je me souviens que j'avais bien casser les pieds avec la démo, mm-hmm, et vous avez dit c'est quoi ce jeu, n'importe
quoi, le nom
quoi,
est ridicule,
et,
ouais, ouais.
Et c'est ridicule.
Moi, je l'avais testé, je t'avais insulté.
Voilà. Et pourtant, tu regardes, c'est pas un hasard s'il est dans beaucoup de tops de l'année, mm-hmm, que ça soit indé ou non, parce que en fait globalement c'est un jeu narratif. Je vais pas m'embêter à expliquer l'histoire parce que vaut mieux le découvrir sur place, et qu'elle est quand même assez elle est assez compliquée à saisir, résumé, ouais, parce que bon, il y a des sauts temporels, il y a pas mal de conceptualisation, c'est pas forcément évident. Néanmoins, ce qui est intéressant, exactement comme d'autres jeux type Life is Strange, c'est sa manière d'aborder des sujets très sérieux, très forts, et qui te prennent par des exemples qui te prennent par les tripes, mm-hmm, et en te donnant pas forcément le bon rôle. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, sachant que les sujets en question, ça peut, alors sont des que des asiatiques, des Américains d'origine asiatique.
D'accord.
Enfin, donc soit canadiens, soit américains, mais tous d'origine asiatique qui ont fait le jeu. Et il y a pas mal de thématiques qui viennent dedans. Donc, on parle d'intégration. Mm-hmm. On parle de Covid. Mm-hmm. On parle
de Covid spécifiquement ou de pandémie de façon globale?
Enfin, pandémie, mais clairement, ouais, la manière dont c'est abordé. Oui.
La période où ça a été développé.
La période où ça a été fait et la manière dont c'est abordé, on parle de ça. On parle aussi d'identité, de comment tu allies les valeurs traditionnelles asiatiques avec les valeurs américaines qui sont des fois diamétralement opposées, et comment tu crées une identité par rapport à ça. Et le tout enrobé dans peut-être un des univers de science-fiction les plus novateurs que j'ai vu depuis un sacré bout de temps, quoi. Okay. Donc non, Thousand X Resist, c'est vraiment un super jeu de Sunset Village.
Ok, ouais. Tu l'as fini, t'en es...
Je sais pas à combien j'en suis, mm-hmm, parce que pour le coup il y a pas d'indicateur et tout, mais je pense qu'en fait là où je l'ai laissé depuis un petit peu trop longtemps, je pense que je vais recommencer depuis le début pour le faire d'une traite.
C'est le genre de jeu qui se fait d'une traite.
Voilà. Mmh. Bah, ouais, comme la plupart des jeux très narratifs comme c'est ça. Vrai que c'est mieux
de pas se faire polluer par une autre histoire, par une autre, s'impliquer émotionnellement dans autre chose.
Ouais, et puis surtout se dire attends merde, je sens que c'est important, mais je sais plus qui est ce perso. Mmh. C'est pas une bonne idée.
Ça marchera pas.
Ouais.
Bah, c'est un petit peu ça me rappelle le genre d'implication qui est nécessaire pour un de mes autres jeux de l'année qui est sorti en 2024, qui est Sovereign Syndicate, mm-hmm, qui est donc un titre des Canadiens de Crimson Herring qui est sorti le 15 janvier 2024. Et je crois que je l'ai acheté le jour où il a sorti, un truc dans le genre. Et donc c'est un jeu d'aventure, jeu de rôle. Je sais pas trop comment le caractériser. Moi j'ai quand même plus senti que c'était un jeu d'aventure. Parce qu'on est dans un univers au niveau du gameplay, on est sans combat, tu vois. Mais on prend des décisions importante pour le destin des personnages.
C'est l'école Disco Elysium peut-être?
Complètement.
Okay.
C'est assumé, c'est même plus qu'assumé, quoi. C'est copié sur certains espaces.
C'est con de pas s'en inspirer, vu le succès du jeu et il a été influent.
Au niveau de la façon de d'écrire.
Oui, c'est con de pas s'en inspirer.
De raconter l'histoire. Mais du coup, dans ce jeu, on suit plusieurs personnages dans une ambiance victorienne, début période industrielle, globalement. Le tout saupoudré de magie, de créatures étonnantes. Il y a des minotaures, il y a des fins. Qui me rappelle un petit peu Shadowrun. Avec ses elfes, ses nains, ses espèces d'orques, etc. Dans un univers un tout petit peu plus avancé que le contemporain. Enfin, légèrement.
J'ai cru que tu me parlerais du jeu de Troika Games.
Arcanum ?
Arcanum, ouais.
Il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça. Effectivement, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Mais parce que effectivement là c'était clairement
à cause du mélange magie-technologie. Côté magie et steampunk, c'est vrai que c'est
très mais on est un petit peu dans cet esprit là
très grand jeu, absolument injouable.
Et du coup on est vraiment dans un jeu basé sur son histoire, enfin vraiment où toute l'histoire est le truc le plus important. Elle est très très bien écrite, les dialogues ils sont farcis avec un argot d'une super bonne qualité, je trouve vraiment. Par contre il est incroyablement dur à traduire, j'ai eu accès aux fichiers de texte et tout, c'est un enfer.
Le jeu il est que en anglais?
Ouais, le jeu est que en anglais.
D'ailleurs moi il faut aussi que j'indique Thousand X Resist, ouais. Si t'es pas anglophone
c'est compliqué.
Ouais, surtout comme je disais il y a des trucs un peu conceptuels.
D'accord.
C'est pas le niveau de Disco Elysium, mais il faut un peu s'accrocher quand même.
Bah, alors là... que la traduction de Satisfactory est très bien.
pas mal. Bien géré. Non, ouais, donc là, clairement, pour l'argot londonien, j'en sais rien en vrai, d'où est-ce qu'il vient, enfin, argot britannique, clairement, c'est un enfer. Faudrait créer des mots, faudrait choisir, en fait, s'inventer un argot pour le traduire en français, pour que ça colle. Ça m'a un peu fait penser à l'argot qui existe dans Gagner la guerre. De Jaworski, où il utilise à un certain moment un certain argot avec les voleurs un petit peu de la ville, enfin bref, mais où il a vraiment écrit quelque chose de on comprend ce qu'ils disent, mais c'est clairement des mots inventés ou des trucs complètement détournés de leur sens, très très bien fait. Il faudrait être aussi bon que ça pour traduire correctement ce jeu. Il a le bon goût d'être accompagné de petites bulles qui t'explique le mot, en fait. Parce que le mot, en lui-même, tu l'as jamais lu, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas ce qu'il veut dire, mais il te met une petite bulle pour te dire, ok, c'est comme ça qu'on désignait ça. C'est une autre façon de dire ça.
Mais donc, est-ce que ça alourdit pas la découverte?
Non. En vrai, moi, j'ai pas trouvé, même si je suis quand même relativement à l'aise avec l'anglais. Ça, c'est quand même effectivement un point très important pour ça. Mais voilà. Mais avec ces petites explications, ces petits accompagnements, ça aide quand même facilement, enfin, ça aide quand même à comprendre ce qui se passe. Et le gameplay est un peu limité. Parce qu'on passe son temps à discuter, globalement. On va également tenter parfois des actions, mais jamais des actions, rarement des actions physiques, plus des actions de discrétion ou de persuasion, ou ce genre de choses.
Oui, bah vraiment comme Disco, où d'un point de vue gameplay, c'était pas le jeu, c'était pas l'école du gameplay.
Clairement.
Disco Elysium,
et là, c'est la même chose.
Sûr que non, ça a jamais été le but.
Ouais. Et là, on est dans le même principe.
En fait, en soi.
Non, c'est ça, c'est vraiment pas gênant. On est sur un système là qui est basé sur le hasard. Ça utilise des cartes de tarot, mais en vrai, c'est comme si on le jetait des dés. Hein, c'est clairement la même. C'est du hasard. Alors bon, je suis pas ultra fan, mais ça n'empêche que les différents personnages qu'on incarne, ils ont chacun leur personnalité, leur destin, qui vont se croiser au cours de l'aventure. C'est un jeu de rôle dans le sens où on prend des décisions donc pour les protagonistes, mais pas parce qu'on va enchaîner les combats et empiler les épées plus deux, ce qui pour moi effectivement est pas du tout un défaut. Et clairement, ouais, j'ai adoré l'aventure jusqu'à la fin. Je l'ai trouvé vraiment de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance, on prend des décisions de plus en plus radicales sur l'avenir, en tout cas des personnages. Vraiment une aventure que je conseille si effectivement l'anglais vous fait pas peur.
Ok, eh ben merci Romain. Je vous propose de faire un dernier tour en 2024, chacun d'entre vous. 2024.
Ok, donc là je dois en choisir un.
T'en avais beaucoup en 2024?
Non, en fait, j'ai quelques mentions honorables. J'aimerais juste en toucher un mot de Balatro, qui a été un jeu assez incroyable, sorti en début d'année, qui est un jeu de poker, plus avec de la manipulation de cartes, de dés. Enfin, vous modifiez votre jeu de cartes, vous avez des combos cachés à faire. Bref, c'est un jeu de poker et plus si affinité.
Combien d'heures, Romain?
Alors, on me l'a offert le 26 décembre.
Ok.
Je vais avoir mis 15 heures dedans.
Ah ouais.
En 2024.
Ouais, ok, en 2024.
Voilà.
Oui.
En 3 jours, quoi, globalement.
Alors, c'est clairement ce genre de jeu où...
Une petite partie.
Voilà. Allez, une petite partie de plus. Ah, le départ, il est pas bon. Là, j'en refais une. Non, mais en fait, j'étais pas très bien lancé, donc j'en refais une.
Non, mieux.
Il est 3h du mat et vous avez les yeux au niveau des joues.
En fait, c'est ça. Mais tu vois, t'as réussi à passer plusieurs decks et tu te dis, vas-y, encore un, tu vois.
Voilà.
C'est, ça avance,
j'ai 70 heures sur le jeu aussi. Et j'ai pas vu le temps passer. C'est-à-dire que je l'ai acheté à sa sortie. Et je pense
t'es parti dans un tunnel à ce moment-là.
Je lui ai mis 70 heures en 2 semaines.
Ouais, c'est pour ce genre de raison que j'ai du mal à me lancer dans Domekeeper. J'ai peur de.
Balatro qui est d'ailleurs disponible sur téléphone parce que.
Pour moi, il est surtout. Voilà. Il aurait dû être limite plutôt sur téléphone.
Alors, il est sorti quelques mois après, je crois, en juin.
Il cartonne.
Quelque chose comme ça. Oui,
sur téléphone, là, ça sert
incroyablement.
Et petit truc rigolo, là, depuis 2 jours, c'est le petit truc rigolo. Il est disponible sur Apple Watch. Il y en a quelqu'un qui a fait un émulateur du jeu sur Apple Watch.
Trop bien.
Voilà, drogue.
Ça existe maintenant sur Apple Watch.
Donc voilà, ça c'était pour une de mes mentions honorables. Il y avait Manor Lords, pareil, dans le genre de jeu qui est fait par une personne avec quelques petits prestats.
Oui, c'est ça, des prestats.
Manor Lords a été développé par une seule personne.
Non, c'était des volontaires.
Cette personne est détestable.
Oui, il est désagréable. Il est désagréable.
Donc Manor Lords, qui n'est pas un hoax.
Comme The Day Before.
Comme The Day Before.
Et comme à peu près toute la production de Fantastic, c'est ça leur nom.
C'est ça. Ouais. Et en fait, c'est un jeu de gestion. C'est un city builder de l'Est, enfin médiéval de l'Est, et qui a été développé par une seule personne sur l'Unreal Engine 5. Et il a été développé à la base par une seule personne. Et par contre, il y a la musique qui a été faite par un presta externe. Il y a 2-3 animations qui ont été faites par un presta externe parce que le gars avait expliqué que il y avait des trucs qu'il savait pas faire et qu'il avait la chance d'avoir un peu de thune pour le faire.
Je rigole, mais le taf fait, sachant que c'est encore une early access et que le jeu n'est pas encore complet, le taf est monumental pour une personne déjà.
Et le jeu d'ailleurs a fait une mise à jour récemment qui est aussi colossale et qui réinvite. En fait, chaque mise à jour vous réinvite à mettre 20 heures dedans, et voilà. Donc c'est un très bon jeu, peut-être un peu trop simulationniste, mais si vous êtes amateur de City Builder velu, c'est pas mal. C'est vraiment de la bonne cam, et c'est disponible sur le Game Pass.
Il n'est pas encore bien complet apparemment.
Moi,
en termes de système.
Je l'ai acheté à la sortie, j'ai mis 10 heures, un truc comme ça, en quelques jours, et effectivement j'étais arrivé au bout. De ce qui était proposé à ce moment-là.
Une quinzaine d'heures par mise à jour.
Ouais,
20 heures par mise à jour, donc, selon l'appréhension.
Et j'ai pas encore remis parce que je suis parti sur Soviet Republic, par exemple, qui était lui déjà terminé. Effectivement, il y a du lourd.
Et donc, maintenant que tu l'as mangé, ou t'attends la 1-0 pour peut-être te mettre dedans?
Oui, je pense qu'il y a un moment ou un autre, j'y retournerai, clairement.
Donc, c'était mes 2 mentions honorables. Et par contre, du coup, comme on peut parler des jeux qui sont sortis en version finale en 2024, l'autre doudou, ça sera The Long Dark. Qui a toutes ses fonctionnalités. C'est un jeu qui est en développement depuis 2014.
On est sur de la tricherie de pirate.
Mais pas du tout.
C'est toi qui a commencé.
Pas du tout. C'est juste que toi, tu joues à rien.
On est sur de la tricherie.
C'est toi qui a commencé.
The Long Dark, il est terminé depuis tellement longtemps.
Il est sorti en 2017.
Sa dernière.
Non, 2014.
2014.
Pardon, 2014.
Il est sorti depuis 10 ans, et pour moi, il était terminé à partir du moment où le mode scénario était terminé. Et le mode scénario, il est terminé depuis un sacré bout de temps.
Absolument pas.
Pas du tout.
Le mode scénario, il manque encore un chapitre.
Voilà, il n'est pas fini.
Donc, techniquement, même là, je triche parce que le jeu n'est même pas dans sa version finale.
Quel scandale. Mais ça fait 10 ans que le jeu est sorti.
Oui, mais t'inquiète, ils sont déjà en train de bosser sur le 2.
Il y a une raison. Il y a une raison pour ça, c'est que le studio Hinterland est un studio canadien et il s'auto-édite. Donc, leurs seuls revenus viennent de The Long Dark. Il y a eu des découpages du jeu pour découper un peu les revenus. C'est aller sur le Game Pass pour faire découvrir. Ça a été un petit peu le fourbi à ce moment-là. Mais du coup, c'est un jeu de survie qui a l'air minimaliste, mais qui est à mes yeux la meilleure sandbox de survie qui existe sur le marché. En fait, à une époque où vous avez des jeux, les jeux de survie sont surtout des jeux de craft.
Oui.
Vous galérez pendant les premières heures parce que vous avez des dangers, mais vous n'êtes pas équipé.
Et au bout de 50 heures, t'es en jetpack. Okay.
Voilà, au bout de 50 heures, vous arrivez avec un jetpack, vous chiez sur la totalité de la nature ou de la faune hostile, et voilà, vous êtes de droite. Super.
C'est vrai que les survival, ça finit vraiment comme ça, quoi.
Et survival logique. Ouais, ouais, c'est ça, tu vas progresser, tu vois, tu vois.
Ouais, mais ça, enfin. Ouais.
C'est le dépassement
de
soi.
Non, mais tu passes de proie à prédateur, et puis.
C'est ça. Alors que dans The Long Dark.
T'es rarement un.
Ah, ça dépend contre quoi, mais.
Jamais.
Bah, ça dépend qui. Moi, je connais des gens, ils ont du mal avec les lapins, déjà.
tu n'arrives jamais au statut de prédateur. Il y a toujours une situation où il y a toujours une bestiole qui va te remettre à ta place, parce que vous n'avez pas de bâtiment, vous êtes isolé dans la nature, on se caille, il peut y avoir des bourrasques de vent, ouais. Vous pouvez vous retrouver en blizzard à moins 70 degrés.
La gestion du froid, c'est très important.
Voilà, la nature, en fait, est toujours là pour vous rappeler que non, vous n'êtes pas un apex predator, vous n'êtes pas en haut de la chaîne alimentaire.
Et un ours qui a faim, il sera toujours plus fort que toi.
Mmh. C'est ça.
Toujours.
Si vous n'êtes pas paré, à n'importe quel moment, votre partie, elle peut se terminer. Ils ont ajouté il y a peu une mécanique en fait de retry en quelque sorte.
Mais de sauvegarde.
Avant, c'était pas une sauvegarde. Enfin, il y a des sauvegardes, mais que vous ne pouvez pas sauvegarder quand vous voulez. Mmh. Vous pouvez sauvegarder qu'à des moments où le jeu vous estime safe pour éviter. D'accord. Que vous rencontrez un loup, bah hop là, vous quittez le jeu. Non, ça ne marche pas ça. Mmh. D'ailleurs, c'est un truc, le jeu sauvegarde quand vous prenez une blessure.
Okay, comme ça, bien obligé à gérer quoi.
Si jamais vous avez le bon goût de quitter au moment où vous avez votre blessure, bah vous réapparaissez avec votre blessure à ce moment-là. Vous devez gérer la difficulté. C'est un jeu de gestion de crise quasiment permanente. Ouais. Et la dernière mise à jour a notamment ajouté un puma, qui est une créature très très territoriale. Si vous vous approchez de son territoire, il vous chasse.
Plus que les loups ?
Beaucoup plus que les loups.
Bah, mmh. Sachant que les... Alors, est-ce qu'il a, il y a un territoire... parce que le truc avec les loups, on avait un peu discuté du jeu et de comment les... par exemple, dans la vraie vie, le territoire de chasse des loups, c'est des centaines de kilomètres carrés. Et dans le jeu, c'est un peu pareil. C'est-à-dire dans que c'est pas genre t'as un spawn avec trois loups, mmh. Et puis tant que t'es loin du spawn, ils vont pas là. Non. C'est-à-dire qu'ils te sentent à un kilomètre le marché, les bordels.
En fait, le jeu simule vraiment la nature en ayant une espèce d'ordre de priorité. C'est-à-dire que les loups vont progressivement aller vers les proies. Vont aller vers les biches, vont aller vers les... pas les élans, mais vers les lapins. Par contre, ils vont être repoussés par les ours. Si un loup... Clairement, le loup reconnaît son maître, en quelque sorte. Et si il s'approche trop du territoire d'un ours, hop, le loup va se décaler. Pareil, un ours... L'ours, normalement, il bouge pas trop. C'est un ours, quoi. Enfin, quand on fait 300 kilos en général et qu'on a des griffes qui peuvent t'arracher la tête, en général, il n'y a pas grand-chose qui te fait bouger.
Et qu'on est en plein hiver. Il n'est pas censé bouger des masses.
Aussi.
Sauf que si tu l'emmerdes.
Sauf que là, ils ont faim.
Voilà, c'est ça.
Et il se trouve qu'ils ont récemment, du coup, ajouté le puma, qui apparaît au bout d'un certain nombre de jours dans votre partie et qui a pour but de... Il a une zone sur chaque... sur quasiment chacune des cartes. Il a une zone...
Qui n'est pas matérialisée, hein, évidemment.
Non, la carte n'est pas matérialisée. Vous devez cartographier vous-même, parce que sinon, c'est pas drôle. L'avantage, c'est que les cartes sont fixes. Donc, une fois que vous les avez apprises...
Tu les connais, quoi. Enfin,
vous les connaissez, vous n'avez pas besoin de passer par l'étape cartographie. Mais du coup, ce puma va avoir un effet sur votre partie, qui va être de vous chasser à partir du moment où vous rentrez dans son territoire. Et si vous l'attaquez... Il va vraiment s'en prendre à vous, il va vous suivre jusqu'à ce que vous l'abattiez, et si vous arrivez, par je ne sais quel miracle, à vous enfuir, en fait il va appeler sa famille de puma pour vous botter le cul. C'est une créature territoriale, à chaque attaque en fait, la difficulté va être plus grande.
Mmh. Okay.
C'est un jeu qui est passionnant, parce qu'il a une DA très à lui, une direction artistique très à lui. Quand vous rentrez dedans, vous vous dites c'est quoi cette merde, c'est moche. Le minimalisme a un intérêt.
Le truc, c'est qu'il était correct, ok, en 2014. Et c'était pas le plus beau des jeux de 2014 déjà.
Non, c'était un déjà jeu en correct. 2014, c'était pas très beau.
C'est du Lopoli assez basique, ouais.
C'était correct. C'était
du Lopoli un peu crasseux même.
Non, en 2014, c'était pas vraiment crasseux, ça allait encore.
C'était déjà un peu baveux, un peu comme une toile. En fait, c'était un petit peu comme une aquarelle, le truc.
Disons que c'est juste que les aplats étaient moins riches qu'un Firewatch qui est sorti un an après, mais c'était à peu près les mêmes.
C'était pas si différent.
Ouais. C'était pas si différent d'un point de vue technique.
En fait, c'était beaucoup plus neutre. Enfin, c'est-à-dire que c'est des décors beaucoup moins variés que Firewatch. Donc,
c'est ça.
Et puis, effectivement, t'avais toujours un peu l'impression que c'est dessiné par quelqu'un qui a pas su rester dans la case, tu sais, qui a dépassé les lignes, oui. Tu vois.
C'est ça. C'est pour ça que je dis que ça déborde un peu.
Oui, mais disons que c'était une DA, mais c'était plus une DA, mais c'était pas le côté cradingue et tout. Alors que aujourd'hui, je trouve ça vraiment daté.
Justement, mais en fait, ce minimaliste va servir le gameplay, puisque déjà vous êtes dans le grand nord américain, donc oui, il n'y a pas d'arbres touffus, hein, clairement. Mais surtout, vous avez besoin d'entendre les loups, vous avez besoin de les voir. Vous voyez une tache noire bouger au fond de la. Enfin, un peu au lointain. Vous n'avez pas de doute, c'est pas un buisson qui a décidé de pop ou de pas pop en fonction de la distance de vue. C'est un loup, c'est forcément une créature. C'est vraiment là où le minimalisme de la survie prend son sens. C'est qu'on peut distinguer les choses parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à voir.
C'est exactement pour moi le même principe que pour les anciens joueurs de Heroes of Might and Magic. Moi, j'ai toujours préféré les Heroes of Might and Magic 2 au 3. Pas parce que le 3 a des meilleures mécaniques, mais dans le 2, tu pouvais repérer les choses beaucoup plus facilement d'un coup d'œil. Oui. Là où dans le 3, c'était fondu à l'intérieur des décors, et donc c'était un peu plus chiant pour repérer les mines, repérer les ressources, etc.
Et c'est ce que j'aime pas en général dans les jeux de survie, parce que j'en ai testé une pelletée, hein, c'est un peu mon genre préféré. Mais au final, j'aime beaucoup les jeux de survie quand ça devient des jeux de gestion. Mmh. Et j'ai des problèmes, ok. Mais du coup, le jeu de survie qui devient vraiment une sandbox avec énormément de craft, avec énormément de trucs, ça devient illisible et on perd très vite le côté survie. Et rares sont les jeux qui arrivent à maintenir une vraie mécanique de survie. Et on n'a jamais autant ressenti la solitude de la survie que dans The Long Dark.
Donc plus Long Dark que Pacific Drive.
C'est de la. Alors.
Appelons sectaire.
C'est pas bien, Pacific Drive.
Une autre fois.
C'était une très très belle promesse, mais c'est pas bien. Et je termine sur The Long Dark pour dire que du coup, ils ont annoncé la suite, The Long Dark 2, qui lui aura potentiellement. Enfin, qui va avoir de la coop, ça a été annoncé, et qui se passera beaucoup plus en environnement urbain. Donc, mais toujours avec cette DA particulière, c'est pour ça que j'avais fait un crochet sur la DA. Et toujours avec cette DA un peu d'aquarelle, voilà. Donc ils ont décidé de garder ce truc-là, bien à eux, un peu plus propre, cela dit. Et normalement, ça sort en 2026.
Très bien.
En Early Access, donc 2036 pour la version finale.
2036 pour la fin du scénar, évidemment.
Évidemment.
Vas-y,
un petit dernier.
Ouais. On passera aux autres jeux.
Scald, Against the Black Priory. Donc une tuerie en pixel art moche. On t'a entendu t'écrouler sur ta
table. Ouais, non, mais voilà, vous avez pas vu.
Un tactical RPG aux mécaniques intelligentes. Une ambiance sombre qui s'enfonce de plus en plus dans la folie. T'en rends pas compte, une vingtaine d'heures au rythme maîtrisé avec des combats pointus. Mais reste là! Assieds-toi! Bref, un RPG, un vrai. Des décisions à prendre, des personnages intéressants, un scénario bien ficelé. Qui finit en plus de façon inattendue. Vraiment une vraie belle réussite. Pour un petit jeu qui est développé par juste une personne, Anders Lauritsen, un Norvégien, ce qui est d'autant plus impressionnant, donc voilà, vu la qualité du résultat. Alors clairement, hein, il est dégueulasse hein, visuellement. C'est des graphismes d'un autre siècle, on en est là. Mais il se déguste avec une petite pointe de délicatesse quand même. Quoi. Une des belles réussites de l'année donc pour moi, vraiment, au niveau de l'écriture, c'est une vingtaine d'heures, je pense, de RPG, un peu à l'ancienne, avec des combats tactiques au tour par tour, enfin exactement tout ce qui moi me tu, voilà, moi tu me donnes ça, je suis heureux pendant 20 heures, le temps que ça dure.
Et c'est moi qui prends les interventions.
Ouais. Mais oui. Tu vois, si tu veux, ça c'est le genre de jeu, en fait t'as pas besoin d'expliquer si comment dire, l'intérêt du truc, enfin ça s'est créé son ambiance, son univers, son et surtout vraiment dans l'écriture des de la façon dont on va t'expliquer la folie du monde dans lequel tu es et comment est-ce que cette folie devient de plus en plus importante. Justement, que tu te rapproches de la cible, entre guillemets, du scénario. Donc, j'ai pas forcément envie d'en dire grand-chose, mais pareil, c'est un jeu où tu vas te créer ton équipe. C'est un RPG vraiment où tu vas créer une équipe de plusieurs personnages. Tu peux les choisir, ils ont tous une petite histoire, il va leur arriver un truc à un moment, ça va te changer un petit peu ce qui est en train de se passer. Ils vont réagir d'une façon pas forcément attendue à ce qui est en train de se, au moment, à l'endroit où tu viens d'arriver, etc. Donc il y a vraiment voilà un truc qui sent vivant, enfin qui a l'air vivant. Et ils ont réussi comme ça à créer quelque chose d'organique au niveau vraiment des relations entre les personnages, et les relations des personnages avec leur environnement et du coup bah comment ça fonctionne avec le scénario quoi. D'accord. Comment ça s'intrigue
donc,
dans le scénario.
Hérité des Baldur's Gate notamment,
ouais.
Sur la gestion des personnages et que dans les Baldur's Gate t'avais personnages qui s'engueulaient
ouais voilà.
Tu sais, les personnages qui s'engueulaient entre eux quand t'arrivais dans un coin et qui disaient c'est quoi ce coin de merde ou
il y avait un petit peu de ça.
Il y avait ça déjà dans Baldur's Gate ouais.
En moins ambitieux, j'ai envie de dire, au niveau des relations etc, enfin quelque chose d'un peu moins cinématographique mais quand tu vois que Sven Vinke, donc le CEO de Larian, qui a fait Baldur's Gate 3, donc le jeu de l'année 2023 pour 99% de la Terre entière, et qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, quand Sven Vinke donc, te dit, bah voilà, ça c'est un RPG tel que je les aime, j'espère que ça, en tout cas, ça lui aura donné la visibilité qu'il mérite.
Ah oui, d'accord, ça a été adoubé.
Complètement. C'est comme ça que le mec, en fait, il a dit, j'ai le trajet d'avion à faire. J'avais des trajets d'avion à faire, etc. pour des trucs. J'ai pris le jeu. Bah, j'ai pas vu passer les trajets d'avion parce que je l'ai fini en quelques heures, à fond, tout le temps.
Je pense qu'en tant que développeur de jeux vidéo, avoir le patron de la Ryan qui te dit
ton RPG il est bon.
Ton jeu qu'il est bien, quoi.
Voilà.
C'est quand même le plus beau des compliments.
Clairement. C'est vraiment, super cool. Enfin,
très bien.
Très, très belle réussite.
Donc, Skald, c'est ça?
Skald, S-K-A-L-D.
OK.
Against the Black Priory.
OK. Donc, pour toi, c'était donc Skald et Worken Resources Soviet.
Et Sovereign Syndicate.
Et Sovereign Syndicate.
Sorti en 2024.
Oui. Et pour les sorties en 2024, du côté de Julien, Satisfactory. Qui était déjà sorti. Et
The Long Dark,
et d'autres jeux qu'on va pas citer parce que c'était des mentions honorables et qu'est-ce qu'on s'en branle.
Si tu veux, je peux te parler du remaster de Tomb Raider. C'est sorti en 2024.
Très bien. Non,
avancer.
Mais je note que vous avez pas.
Il nous reste 20 minutes, on va avancer.
Voilà, je note que vous avez pas parlé de Stellar Blade. Très bien.
Très bah non, parce qu'on n'y a pas joué.
Parce que vous n'avez pas de goût, c'est tout. Non.
Parce qu'on n'y a pas joué. Sinon, je te parlais de Black Myth Wukong ou tous les trucs.
Non, évite. Alors, moi, je vais parler des jeux que j'ai joué en 2024, qui sont sortis légèrement avant 2024.
Ouais, en 97, c'est ça?
Pas loin. Vu que le premier jeu dont je vais parler, il s'appelle Journey.
Ah, effectivement, on s'approche de 97.
Et donc, c'est que cette année.
Et donc, il est plus vieux.
Quel escroc.
Plus vieux que The Long Dark.
Ouais.
Mais pas de beaucoup.
C'est quoi, 2013.
Donc, 2013.
Ok. Il est
légèrement plus vieux que The Long Dark, escroc.
Et en même temps, est-ce que c'est encore nécessaire de présenter Journey?
Je pense, ouais. Enfin, c'est pas tant présenter Journey, mais est-ce que Journey marche encore 10 ans après, quoi? Parce que pour quelqu'un qui a jamais joué, Journey, pour les gens qui ne sauraient pas ce qu'est Journey, c'est donc un jeu de Z Game Company, c'est bien ça? Et donc c'est un jeu j'allais dire narratif sans parole
c'est un jeu de randonnée.
C'est un jeu d'ambiance.
Bah c'est un peu tout ça, un jeu narratif, ouais. De randonnée et d'ambiance.
Bah disons qu'il va te raconter ça par l'environnement quoi.
Ouais, mais
il va te raconter son histoire par l'environnement.
Par le gameplay aussi hein, parce que pour le coup, il y a c'est un jeu qui se fait en coop. Avec quelqu'un que tu ne connais pas. Avec qui tu n'as le seul moyen de communiquer, c'est en te déplaçant et en faisant des bruits apparemment inintelligibles. Et le truc, c'est pas tant un jeu sur son histoire, sur son qui va intéresser par son ambiance, mais plutôt par comment tu vas communiquer avec quelqu'un qui t'est complètement inconnu dans une langue qui est complètement inconnue, et comment tu vas réussir à faire des choses avec cette personne. Et ça, en fait. 2013 ou 2024 ou 2025, en fait, c'est universel et ça, le jeu est pour moi increvable à ce niveau-là.
Et il y a encore des gens qui y jouent. Donc tu trouves encore des gens pour y jouer.
Oui,
enfin, pour justement participer à ça.
Et ben, par exemple, sur une partie, c'est seamless. Et en fait, le truc, c'est que selon les parties, des fois, t'es avec quelqu'un, tu vas passer à une autre partie, ça va être quelqu'un d'autre, mais tu le sais pas en fait.
Oui, mais il y a suffisamment de joueurs pour pouvoir.
Il y a que à la fin du jeu qu'on te dit tu as joué. En tout cas, il y a que oui des fantômes de gens vu que les parties sont plus ou moins timées, tu peux te débrouiller aussi. Mais en tout cas, à la fin du jeu, tu as joué avec telle personne. Et des fois, tu le ressens parce que au début, tu dis tiens, c'est marrant, tu vois à peu près ce que la personne veut te montrer ou ce genre de choses. Et la partie d'après, la personne, elle en a rien à faire, elle fait n'importe quoi ou elle fait autre chose et tout. Tu sais pas ce qui se passe en fait. Et moi, je savais pas qu'il y avait plusieurs personnes qui pouvaient jouer en, qui pouvaient être associées à ta partie.
Mais du coup, toi, comment est-ce que tu as joué ?
Ah, alors moi.
Parce que tu as été l'autre de quelqu'un.
Oui, alors moi, j'ai joué en mode. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je comprends rien.
Une pauvre personne, en fait, du coup, a découvert Journey avec toi comme compagnon.
Alors, en fait.
Il n'a pas du tout eu la même expérience.
En fait, le truc, c'est que j'ai trouvé, bizarrement, que le jeu était relativement abscon au début. Et très simple par la suite, parce que sur la suite, on est sur des mécaniques. Plateforme, infiltration avec des gros guillemets, tu sais, avec les trucs de vent, les mécaniques de vent, les trucs où il faut que tu te protèges, les trucs où, des trucs d'infiltration, etc. Où là, entre guillemets, c'est mécanique et entre guillemets, t'as déjà joué à des jeux vidéo, donc c'est facile. Mais ça arrive relativement tard dans le jeu. Au début, c'est vraiment, bon, bah, t'as un univers de sable et puis tu sais pas trop ce que tu dois faire. Donc c'est là où effectivement j'ai eu besoin plutôt de quelqu'un. J'étais à fond sur le côté communication pour essayer de savoir ce qui se passait. Après c'était beaucoup plus simple parce que ça restait des mécaniques
du gameplay que tu comprends,
du gameplay environnemental comme on a vu relativement souvent, surtout depuis 2015, mais même avant. Hein, il est pas révolutionnaire à ce niveau-là. Mais je trouve qu'il marche encore très bien. Néanmoins, c'est voilà, c'est 2-3 heures et ça marche très bien.
Ok.
Ça marche très bien.
Ok, ok. Bon, au niveau timing, je pense que j'aurai le temps de parler d'un jeu joué en 2024, mais sorti avant. Mmh. Pas longtemps avant, hein, 2022. Citizen Sleeper.
Ok.
Que j'ai découvert en 2024, donc un peu après tout le monde. Mais pour profiter de la traduction française qui est impeccable. Pour découvrir ce jeu de rôle, encore une fois, hein, ça reste un petit peu l'ambiance, d'une grande qualité d'écriture, avec une implication émotionnelle assez forte dans les personnages, dans les décisions que tu prends. Et au gameplay, bah, vraiment simple, mais brutal parfois aussi, enfin, sur les décisions, sur les choix que tu dois faire. C'est assez... ouais, tu t'impliques dedans. Vraiment, c'est un peu sa force, je trouve.
C'est un jeu qui est très... j'ai une approche, enfin, genre... un feeling très bizarre vis-à-vis de ce jeu. Je l'ai lancé 2 ou 3 fois je crois, et sur mes trois parties se ressemblaient. J'ai joué une heure et demie et je suis triste parce que j'ai jamais réussi à être dans le mood, dans l'humeur vraiment de m'impliquer.
C'est
un jeu qui est un peu exigeant dans ce qu'il vous demande.
Oui
j'ai ce même rapport là avec Disco Elysium. C'est-à-dire que Disco Elysium, j'ai jamais pu le finir. J'ai essayé plusieurs fois. À chaque fois, je me dis, ouais, il y a certains trucs et tout, mais au bout d'un moment, je lâche le truc parce que il a un feeling particulier.
Il y a un phénomène qui se passe dans certains jeux, vous jouez.
Et t'as envie de l'aimer, hein. Mais...
voilà, c'est des jeux que vous avez envie d'aimer, mais que, ben, je sais pas, il y a un truc qui fait que ça lâche à un moment donné.
Après, c'est
inexplicable.
Oui, voilà, c'est inexplicable, mais c'est pas grave non plus. Enfin,
non,
tu vois, c'est
non,
pas...
non, je dis
non,
pas
non,
ça
non.
pour.
Non, non, je comprends, mais je comprends.
C'est pas un reproche du jeu, c'est plus. C'est des jeux où tu dis, j'ai pas de truc concrètement à dire, c'est pas bien, c'est juste que le feeling n'y est pas, quoi.
Tout ce que je vois est très bien, mais ça colle pas avec moi. C'est bizarre.
Moi, ça a bien marché. Tu vois, ça a bien collé, mais peut-être parce que justement j'ai réussi à le faire en très peu de sessions. C'était vraiment un tunnel, quoi, tout droit. Et globalement, on est dans un rêve mouillé d'Elon Musk, la transphobie en moins, puisqu'on incarne une copie synthétique d'un être humain dont l'esprit a été numérisé. Voilà.
Moi, je rigole pas parce qu'il m'avait annoncé celle-là.
Voilà. Mais je la trouve bien.
Très bien.
Elle est parfaite, hein.
C'est une réflexion intelligente sur l'identité, sur le destin, les deux pouvoirs dans un futur lointain. Et c'est fait par un solo dev et auteur britannique, Gareth Martin, qui avait déjà fait In Over Waters, un jeu également narratif, un petit peu avec son propre univers.
Illustré par Singelin.
Aussi, ouais.
Singelin qui, pour ceux qui connaissent Origami,
oui,
fait aussi les illustrations
de chez eux,
ouais. du média jeu vidéo Origami.
Et donc on attend la suite de Citizen Sleeper qui doit sortir le 31 janvier 2025. Ça aurait pu être mon jeu le plus attendu de l'année qui vient de s'ouvrir. Ce sera pas le cas, mais ça aurait pu.
Mais tu le places quand même petit malin.
Parce que okay. Je peux déconner.
Non, mais...
Après, moi j'en ai d'autres, mais au niveau timing, je pense que si on veut, t'en as éventuellement, ouais, si vous avez un...
Moi ça va pour 2024.
Moi, okay.
Sinon je parle de Tomb Raider et je me fais foutre dehors.
Ouais. Je vais parler vite fait, je vais juste les évoquer.
Mm-hmm.
J'ai adoré jouer à Life is Strange True Colors.
Okay.
Qui est relativement mésestimé parmi les fans de Life
is Strange. Est-ce que ce serait pas le sujet d'un podcast que
Trucolor
aurait fait
un grand regret.
on a parlé d'un petit podcast qui s'appelle Cast F5 et dont le premier épisode a été tourné par Mickey, par Xavier et par moi.
Ça m'a coûté un SSD quand même.
Ouais, ça lui a coûté son PC.
Et en fait, en une heure, on a eu le temps de parler de Life is Strange 1.
Okay.
Et légèrement un peu du 2 aussi. Très légèrement.
Mais pas de True Colors.
Ouais. Mais, par contre, on a parlé de. On n'a pas parlé de True Colors. On n'avait pas parlé de. On a parlé par contre de Captain Spirit.
Ouais, mais pas assez.
Bon, bref.
C'est sur pressf5.fr, vous pouvez aller dessus.
Et du coup, True Colors.
Ouais, True Colors. Très rapidement, voilà, mésestimé chez les fans qui sont très liés à l'histoire de Max et de Chloé, et ce que je veux bien comprendre. Celui-là est beaucoup moins ambitieux d'un point de vue, on va dire, artistique, mm-hmm. et d'un point de vue sentiment, ou plutôt. Il est moins ambitieux dans ce qu'il veut raconter des États-Unis, on va dire. Life is Strange, c'est une image des États-Unis très particulière. Mm-hmm. En fait, c'est un jeu fait par des Français, alors que Deck Nine, ce sont des Américains. Et donc, on avait une version beaucoup plus ramassée de ce qu'est les États-Unis. Donc, c'était moins ambitieux à ce niveau-là, en tout cas. Même s'il y a, mais il y avait quand même, dans un côté très ramassé, il y avait des sujets qui étaient très intéressants. Il y a un côté beaucoup plus dramatique, beaucoup plus drama dans Life is Strange. Et puis, il y a des idées de gameplay qui sont vraiment incroyables. Toute la partie jeu de rôle est folle. Il y a des personnages qui resteront longtemps encore.
La protagoniste, enfin.
La protagoniste est superbe, Alex Chen. Je trouve que c'était vraiment, burné de se lancer dans un personnage pareil.
Ce personnage est incroyable. Ça a été un des meilleurs protagonistes que j'ai eu la joie d'incarner, quoi.
Ouais. C'est-à-dire que.
Dans un jeu vidéo.
Unpopular opinion, je préfère Alex à Max. Voilà.
Okay. Passion populaire autour de cette table.
C'est ça. Mais okay. Voilà, donc très très vraiment, j'ai passé un super bon moment. Malheureusement, c'était aussi au moment des révélations sur Deck Nine et ça faisait un peu chier.
Ouais.
Mais super, vraiment un super jeu. Deuxième truc aussi, j'ai joué à It Takes Two, je dirais juste un truc. Ce jeu est aussi fabuleux dans son gameplay qu'il est nullissime dans ce qu'il veut raconter. Nul.
Okay.
Quand il va tout ce qu'il va raconter. Par contre, en vrai, jouez-y. Mm-hmm. Parce que en termes de gameplay, il y a tellement d'idées, c'est fou. Tu t'emmerdes jamais. C'est absolument génial d'un point de vue gameplay. Faut juste
pas écouter le message.
Faut juste mettre tout sur mute.
Alors pourtant, t'as adoré le personnage du bouquin.
Le personnage du mec, le personnage du mec qui bref, horrible.
Okay. Okay,
même le gosse, putain, réagit, merde.
Pareil, je vais en évoquer deux trois vite fait.
Ouais.
Non, vraiment vite fait. Death Must Die, sorti en Early Access en 2023, mais c'est un Vampire Survivor avec un peu de Diablo parce qu'il y a de la gestion d'inventaire. Et c'est l'univers et un petit peu tu vas chasser la mort dans les enfers et surtout Hades. Ils ont rajouté du Hades dedans. T'as du Dash, t'as des personnages un petit peu divins qui viennent te filer des pouvoirs et te raconter leur vie. Enfin, Hades.
Ça veut dire qu'on peut parler d'Hades ?
Non. Ça veut dire que j'ai pas fini.
T'as pas assez de temps pour ça.
Le deuxième. Alors l'avant-dernier sera Ixion, un city builder, base builder spatial narratif. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, en fait, les angoumoisins de Bulwark Studio, donc d'Angoulême, les Français, qui ont réussi donc à faire l'amalgame délicat entre la gestion, la construction et la narration. Donc, c'est très délicat à faire. Ça rapproche le jeu beaucoup plus d'un Frostpunk, par exemple, que d'un City Builder, d'un Base Builder classique. Très réussi, la musique est incroyable. Ixion, vraiment une très très belle expérience. J'aurais pu citer Jagged Alliance 3, que j'ai joué aussi. Sin Investigators, que quelqu'un ici a beaucoup aimé.
Sin Investigators, oui, qui a coûté quelques heures de sommeil.
Voilà. Ouais. Ou Luck Be a Landlord, qui est le balatro du bandit manchot.
On t'a vu être très très mauvais à ce jeu, quand même.
Non, c'était pas lui qui était mauvais.
C'était pas moi qui était mauvais,
c'était eux deux ensemble.
J'avais un commissaire marseillais qui
mais vous étiez tragique.
Et du coup, je vais quand même vite fait citer le Game of the Year 2024, celui qui est incontesté, incontestable. Je me devais de le mentionner, évidemment, c'est Concorde.
Mais qu'il est con.
Concorde, shooter compétitif.
Il
donc,
a même pas joué, espèce d'escroc.
Mais il a pas eu le temps.
Ben non, j'ai pas eu le temps. Un shooter compétitif développé pendant 6 ans à peu près par Firewalk. Donc c'est pas un studio indé, hein. Fondé par l'ancien CEO de Bungie, développé par des anciens d'Activision, de Bungie. C'est pas un indé dans son garage. Racheté en 2023 par Sony, qui voulait le sortir sous sa bannière, qui finalement l'a laissé aller droit dans le mur sans marketing, avec un gameplay qui sortait pas spécialement du lot, un modèle économique pas du tout adapté au marché, qui aurait dû l'amener sur le terrain du free-to-play, mais ils ont préféré le vendre à 40 balles, donc absolument à personne. Ils ont constaté l'ampleur de l'échec.
En quasi-exclusivité sur PlayStation, sachant que... il était sur Steam après l'avoir sorti sur PlayStation, ce qui était une connerie.
Non. Il est sorti en même temps.
3 jours après.
Non, il est sorti en même temps.
Non, 3 jours. Tu regardes.
Ah, ça change rien sur le fait qu'il s'est pété la gueule. Enfin.
Ça veut dire qu'en 3 jours, ils ont vu les ventes, ils ont dit vite sur PC.
C'était déjà prévu, hein. Ça n'a jamais été une surprise de le sortir sur PC.
Oui.
Bah après, quand ils ont appuyé sur le bouton publier, je pense que la personne aussi était surprise qu'on lui ait dit d'appuyer dessus, quoi.
Voilà. C'est un peu.
Je sais pas, moi j'avais toujours entendu parler comme un jeu qui allait sortir sur le plus large possible.
Mais je pense que la personne, en tout cas, qui était en charge de sortir Concorde, quand il a vu sur son agenda qu'aujourd'hui il sortait Concorde, il a dû se dire ah.
Ça devait être plus tard.
C'est pas du tout le message que j'avais en tête.
Non, bah,
okay. il est sorti sans communication.
Oui, bah oui, c'est pour ça.
Quand il y a vu le truc sur le PlayStation avec toutes les vidéos dessus, tous les trailers, machin, t'avais en fait d'abord une exclue PlayStation.
L'exclus PlayStation, oui, c'est vrai qu'elles arrivent de plus en plus au PC, mais après.
Bah ouais,
bref,
c'est pour ça.
Ils ont fini par tout jeter à la poubelle le jeu. Comme les studios, comme les employés du studio. Donc, comme le dit si bien Kylie Hunter du site noescapevg.com à qui j'ai piqué cette hot tech. C'est un mec qui parle de jeux vidéo avec les potards au maximum vers l'extrême gauche. C'est pas le meilleur jeu de 2024, c'est pas le pire, mais c'est le plus emblématique de l'état de l'industrie en 2024. Et c'est ce dont on vous parle sur cette antenne depuis plus de 2 ans et demi. Le fonctionnement de l'industrie et les conséquences que ça a sur des vrais gens. Et c'est pour ça que c'est le Game of the Year 2024.
Oui. Surtout quand t'as 3 mois après un Marvel Rivals qui sort et qui pète des records avec le même gameplay. Hein.
En free to play avec autre.
Oui.
Bref, il
bah
y a
oui,
d'autres,
non, mais
d'autres éléments. C'est pour ça que c'est pas le pire, c'est pas le même jeu.
Concorde en soi, c'est pas un jeu de merde. C'est juste un jeu qui était mal marketé, mal vendu.
Ça correspond. Voilà, mais tu vois, les conséquences, c'est des mecs qui ont bossé dessus pendant 6 ans qui se font virer du jour au lendemain.
Après, c'est là
aussi,
2024. C'est là aussi où c'est étonnant, c'est que tu vois, 2024 a amené Concorde. Comme ça a amené Balatro.
Oui.
Et Balatro, alors ok, il était très bien marketé, il a super bien trouvé sa...
Il aurait pu ne pas marcher du tout.
Dans
chaque réussite, t'as énormément de chance,
évidemment,
de bon timing.
D'ailleurs, un gros cœur sur le développeur de Balatro, qui rend à César, en fait, qui a bien conscience de la chance qu'il a eue. Parce que le mec a atteint en un an le niveau d'un Stardew Valley, je pense, en termes de confort financier.
Oui.
Et il a beaucoup rendu à la communauté indépendante,
ouais.
Justement en donnant de la visibilité à d'autres jeux, en créditant d'autres jeux, d'autres créations, en parlant de l'industrie. Mm-hmm. Vraiment, en fait, il s'est servi de son temps de scène qui est pas donné à ce genre de jeu. Il l'a beaucoup partagé et vraiment ça c'est une très bonne réussite.
Ouais, t'as raison, je conseille fortement son discours pour lors des Indie Game Awards.
On avait parlé la semaine dernière.
Ouais, des Indie Game Awards où justement il a eu, par rapport au Game Awards, il avait vraiment eu le temps de faire un vrai message, etc. Et il y avait vraiment tout ce que tu disais. Un peu comme les gens qui ont fait Among Us, Inner Sloth, et qui justement
ont fait Outer Sloth
pour. Bah, en fait, je pense qu'il y a. Le côté crise a quand même créé une vraie solidarité aussi chez certains, en tout cas. Pas chez tous, hein, mais chez certains.
Avant qu'on attaque les jeux pour 2025.
Vite. Alors.
Faisons la pub pour Press F5, dont vient notre ami Dupus.
Oui.
Et son collectif de streamers. C'était à mentionner. C'était à mentionner pour les différentes personnes qui font partie du collectif. Disponible sur Twitch, donc toi, Lupus 7.
C'est ça, Lupus 7, mais le mieux c'est d'aller sur pressf5.fr et vous trouverez la totalité des membres du collectif.
Et deuxième pub également,
sachant que désormais il y a des podcasts.
Aussi.
Voilà. Déjà il y a le nôtre.
Déjà le nôtre et de nos émissions-là.
Et puis il y a aussi.
Les podcasts qui ont été enregistrés avec des personnes qui ont perdu leur PC.
C'est ça. D'ailleurs, Romain, c'est bientôt ton tour.
Très bien, quand tu veux. Deuxième pub, dernière.
Pour la semaine prochaine.
Pour la semaine prochaine, pour jeudi prochain, quiz à toi et moi, mon ami.
Oui.
Qui se déroulera comme d'habitude chez les Tartes.
Voilà.
Chez les Tartes du premier, donc rue, pas place, merde.
Fernand-Ray.
Place Fernand-Ray.
Place Fernand-Ray.
À côté de la place Saint-Denis.
En gros, c'est chez les Tartes. Le plus simple, ça va se passer donc jeudi prochain. Donc,
Il y aura à la place de l'émission.
À la place
on
de l'émission,
pas d'émission, jeudi
pas
prochain,
d'émission,
on sera
si vous
en
voulez
plein
entendre,
quiz.
Ce sera directement pour le quiz. Ça se passera donc jeudi prochain où on sera le 16. Jeudi 16 janvier. Ce sera comme d'habitude du quiz, du blind test, plutôt ambiance rock. Un thème assez marrant pour le coup.
Oui, ça va être rigolo.
Ouais, voilà.
On n'a plus qu'à bosser.
Non, ça c'est fait. Alors toi, tu veux que tu bosses parce que moi j'ai déjà tout fini.
Oui.
J'ai déjà tout fini mes parties.
C'est marrant, il me dit ça à chaque fois.
Et oui. Je terminerai, messieurs, avec votre attente pour 2025. On commence par notre invité, Julien.
Je vais pas être original, ça sera. J'ai hésité avec Kingdom Come Deliverance 2, tout ça. Mais non, ce sera Anno 117, la suite du coup de la saga Anno, des gros city builders allemands Anno, qui décident, après le 1800, de partir dans l'Antiquité, ce qui sera une première dans l'histoire de la saga.
Yes.
Très cool.
Moi, ce sera Hollywood Animal.
Ok.
Qui est donc un jeu de gestion de studio de cinéma, au début de l'industrie, dans les années 20-30, à Hollywood, avant que Hollywood devienne Hollywood. Et c'est par les mecs qui ont fait, c'est par Ouyapi, le studio, un studio biélorusse basé à Chypre, bizarrement, mais qui avait fait les This is the Police, qui donc sait raconter des histoires, et vraiment la force de ces jeux c'était la narration, et ils ont là aussi l'intention de mettre beaucoup de narration dans le jeu, j'espère que cette fois-ci en fait, je pense que les heures que j'ai passées sur la démo, me rendre confiant sur le fait que cette fois-ci ils ont su amener un gameplay intéressant.
Ok, donc en plus Hollywood Animals, c'est qui est très à propos vu qu'en ce moment Hollywood est littéralement en train de brûler
tout à fait.
Et ben moi mon attente de 2025 c'est la même que pour 2024.
Et c'est nous les escrocs.
Et je sais ce que c'est.
Et le jeu s'appelle Old Skies. Et c'est le nouveau jeu de Wadjet Eye qui cette fois-ci devrait sortir. Non, en vrai pour le coup le développeur de Wadjet Eye a donné beaucoup beaucoup plus de garanties, notamment que ça soit au niveau de l'enregistrement des voix, au niveau de l'avancement et des extraits qu'il nous montre. Et il a pas donné de date. C'est quand même par contre là où c'était un peu plus flou l'année dernière, là il y a quand même beaucoup d'indices qui mènent au fait qu'il soit sorti cette année, sachant que là on est sur un des jeux les plus ambitieux du studio, on est censé être sur un point and click, mais là avec un point and click temporel, sachant que les jeux de attention quand je parle de point and click temporel, ne pensez pas à Day of the Tentacle parce qu'on n'est pas du tout sur le même trip, on est sur des choses beaucoup plus sérieuses business et puis beaucoup moins délirantes au niveau des énigmes, mais par contre on est sur une qualité d'écriture assez assez folle. Et surtout des doublages absolument impeccables. C'est simple. Les gens qui sont passés dans les jeux Wajetai en tant qu'acteurs de doublage sont devenus très connus par la suite. T'as notamment celui qui double Hades dans Hades. Et d'abord, ses premières armes, il l'a fait chez Wajetai. Mmh. Sally Bowman qui fait le personnage de la guerrière ultra vénère dans Baldur's Gate 3. Qui a maintenant des millions de followers, etc., qui a reçu un BAFTA aussi il y a pas très longtemps. Elle a fait ses premières armes aussi chez Wajetai. Il y a toujours une qualité de doublage qui est incroyable. Et ça fait partie des jeux, forcément, que j'attends très, 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 très fort.
Eh ben, merci à vous deux.
Personne pour parler de Silksong?
Personne pour parler de
non,
GTA 6?
Parce que Ashcrew n'est pas là.
Et personne pour parler de GTA 6?
Non, parce qu'on aime bien les jeux vidéo.
Eh ben merci à tous les deux.
Non, c'est très cool. C'est très cool. On avait beaucoup trop de choses à dire, comme
évidemment.
D'habitude. Et il faut que cette émission dure environ 8 heures à chaque fois.
Oui.
Des bisous.
Des bisous. C'était un plaisir de vous voir, les copains. Prochaine émission dans sûrement début février.
Ouais.
Moi, je dois partir. Alors, à moins que Julien veuille faire des émissions juste avec toi, il en est capable.
Mais pour moi, c'est pas
pour tout de suite. Voilà.
Okay.
Et nos meilleurs vœux à tout le monde.
Meilleurs vœux.
Non, on l'avait déjà dit la semaine dernière, mais merci à toi de le rappeler.
Et venez nous voir la semaine prochaine sur Lyon, chez les Tartes, Prestart, jeudi à 20h.
Bonne soirée à tous.
Ciao.
Salut.
Ciao.